Bienvenue dans le bulletin Azur numéro 15. Nous enregistrons ce 4 juin 2013. L'adresse de référence, akms/lebulletinazur. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur @WindowsAzur. Et également nos différents tweets. Benjguin pour ce qui me concerne, Pierre Coup pour ce qui le concerne et Tom Comté pour ce qui le concerne. Donc Pierre, bonjour.
Comment vas-tu depuis un mois et demi maintenant? Ça fait, il date un petit peu notre dernier bulletin.
C'est ça. Et Thomas, bonjour.
Bonjour Benjamin, bonjour Pierre, bonjour à tous.
Très bien. Donc, nous nous appuyons sur le Cloud Cover Show, mais on a quelques épisodes de retard. Donc en fait, on ne va pas du tout détailler ce qu'il y a eu dans ces épisodes. Mais vous voyez qu'il y a eu ces deux-là. Donc,
l'intérêt, c'est d'aller les voir en fait. Voilà. Hein, ils sont très visibles.
Donc le Corse pour le 104, General Availability de IaaS, Azure SDK, Service Bus, Virtual Networking, Active Directory et Bistock Service.
Ah, il y a à peu près 3 jours de vidéo à regarder. Donc on va tout résumer en 10 minutes.
Et si on les regarde en x0.5, ça fait 6 jours. Très bien. Alors, les nouvelles locales. Tout d'abord, nous avons le 1er juillet prochain un Windows Azure Camp. Tu veux nous en dire deux mots, Pierre?
Oui. Alors, ça va être assez rythmé. Donc, on a 8 sessions dans la demi-journée. Wow, ça commence à 15h, ça finit à 19h.
Tu lis
donc,
tout.
C'est une session de 30 minutes. Vous avez sous les yeux le programme complet de l'événement. C'est pas la peine de prendre une journée chez votre patron, venir, etc., etc. Vous allez recevoir des invitations demi-heure par demi-heure pour aller regarder celui dont vous avez besoin. Donc ça, c'est la première chose intéressante. La deuxième, c'est qu'on fait ça avec plein de gens qui font concrètement des choses sur Azure au quotidien. Et donc, on espère bien que c'est eux et pas nous qui allons prendre la parole sur tout ça avec des retours d'expérience, des cas clients, etc., etc.
Des gens qui sont allés chez des clients et qui reviennent et qui nous en parlent et tout.
Exactement.
Très bien, impeccable.
Donc, c'est exclusivement en ligne. En général, on accueille aussi ici, mais on a décidé de faire ça un vendredi. Donc, on s'est dit, on va faire tout ça tranquillement en fin de journée. Et vous pouvez le faire et le voir de chez vous.
Voilà. Donc, on vous a mis un lien akms/1er juillet, vu que c'est le 1er juillet. Très bien. Maintenant, un événement qui aura lieu dans le passé. Le 27 avril, il y a eu le Windows Azure Global Bootcamp un peu partout dans le monde et localement aussi, d'où le fait que ce soit dans les nouvelles locales. Et donc, vous trouverez des photos, entre autres, de l'événement. Toi, tu y es passé, je crois.
J'y suis passé. J'ai fait également une petite session, deux petites sessions d'ailleurs. Ouais. Donc, les slides sont disponibles sur thecloud.fr. Je ne pense pas qu'on aura des enregistrements parce qu'on a eu des problèmes à la prise de son. Donc vous aurez principalement des slide decks, mais sur The Cloud.
Avec du piano. Il y aura le
voilà,
son avec du piano.
Exactement. Mais, mais sur The Cloud, vous allez retrouver tous les gens qui l'ont animé, qui sont réactifs, qui peuvent répondre à vos questions, etc. Comme d'habitude, entre le groupe Facebook et thecloud.fr, on a tout ce qu'il faut pour retrouver les contacts et les infos.
Fort bien. Alors, les nouvelles globales maintenant. Donc, on va switcher sur le navigateur. Donc, plutôt que d'aller sur le blog msdn.com Windows Azure, où il y a énormément de news, on s'est concentré pratiquement que sur celle de Scott Guthrie qui fait beaucoup d'annonces.
Et déjà,
il y a quelques trucs à voir. Donc, si on regarde, ça c'est la deuxième page de son blog. Ça commence avec Windows Azure Active Directory qui est GA. Donc, que peut-on faire avec Windows Azure Active Directory? Gérer les identités, projeter les identités d'entreprise qu'on peut avoir dans un Active Directory à demeure et les projeter dans le cloud. Et puis également authentifier des utilisateurs directement depuis le cloud en multi-tenant ou en mono-tenant suivant ce qu'on veut faire. Alors, si on passe ensuite sur la page Previews, donc la page 1. On va avoir en gros les différentes choses qu'on a vues sur les Cloud Cover Show, puisque évidemment, ils collent un peu à l'actualité, ce qui paraît logique. Et donc, on va voir les principales là, ici. Donc ça, celui-ci, on en a parlé. Il y a aussi le backup service pour pouvoir sauvegarder des serveurs qui sont à demeure, les sauvegarder dans le cloud. Également la possibilité dans Websites d'avoir du monitoring, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Entre autres, dans les différentes nouveautés de Websites. Ensuite, Thomas.
Présent.
Voilà. Que t'inspire ce blog post ? Windows Azure, improvements to virtual network, virtual machine, cloud service et un Ruby SDK.
Donc virtual networks, on va y revenir après, mais donc on a annoncé la possibilité d'avoir la connectivité point to site, donc pas seulement de réseau à réseau comme un VPN classique, mais également d'un ordinateur, d'une station de travail jusque dans Azure, voir les deux en même temps. Ouais. Donc on va regarder tout ça. Donc pour ceux qui suivent, c'est un peu la réintroduction de la fonctionnalité Windows Azure Connect, ouais. Qui avait existé pendant un certain temps et qui maintenant est réintégrée finalement dans Virtual Networks. Donc ça c'est fort bien. Et donc avec ça, on peut relier on peut créer des architectures hybrides et relier son LAN à Azure. Ensuite, c'est très différent. Mais on a un SDK Azure pour Ruby officiel. Donc, quelque part, c'est un SDK qui existait depuis un certain temps sur GitHub, qu'on a officialisé sous la forme d'un Ruby Developer Center sur le site web
WindowsAzure.com.
Voilà, donc sur lequel on va expliquer comment on va déployer du Ruby dans les machines virtuelles, déployer des applications Ruby sur ces VM, et puis utiliser le SDK donc, pour accéder à un certain nombre de fonctionnalités Azure, dont le storage, les files d'attente, les tables et le service bus dans cette version du SDK. Donc c'est bien. Donc si vous faites du Ruby, voilà, vous êtes bienvenue dans Azure.
Et aussi une petite gemme qui installe les outils Azure de manipulation ligne de commande de façon à ce qu'on n'ait pas à courir après tous les composants.
Donc, tout à fait.
Ensuite, New Dev Test Offering, Bistock Service SSL Support pour Website, AD Improvements et Per Minute Billing. Donc on va voir peut-être tout ça sur forme de démo, mais oui, si tu peux nous en dire deux mots comme ça, enfin comme tu préfères.
Oh, bah, c'est pas très compliqué. On a une bonne remise à plat de tout ce qui est faisable avec les abonnements MSDN. Donc on a fait un grand tour là-dessus, combien ça coûte, comment ça marche, etc., etc. On en parlera un tout petit peu plus tout à l'heure. Donc ça, c'est la première partie intéressante. Et ensuite, sur la partie website spécifiquement, on a mis en place des petites nouveautés qu'on nous demandait régulièrement, du genre le support des certificats SSL personnalisés. On avait du FTPS, mais avec les certificats de azurewebsites.net. Donc ça ne couvrait pas monsieur tout le monde allant sur le site. Il fallait mettre l'URL en azurewebsites.net. Donc ça, c'est
intéressant
également
pour les applis Facebook, mais bon, pour...
Ça s'arrêtait un peu là. Voilà. Et le reste, on verra un petit peu tout à l'heure.
Voilà. Et puis, il y en a un autre qui ressemble à un autre blog post qui ressemble, avec entre autres des éléments sur la partie billing. On y revient aussi tout à l'heure. Ouais. Où tu veux couvrir. On va revenir sur celui-ci après. Et un élément important, ce blog post aussi, Pierre.
Alors, il est très long. C'est un blog post qui est consacré spécifiquement à la prochaine version de Visual Studio. C'est sur le blog de Brian Harry, c'est lui qui fait beaucoup de choses autour de ça. Donc vous verrez toutes les nouveautés de Visual Studio si vous allez après au milieu du blog post.
J'ai vu que maintenant on peut lire avec le doigt avec Windows 8, c'est pas
tout. Oui, ça dépend de l'écran qu'on a, mais je vois ce que tu veux dire. Donc si vous allez au milieu là, ou si tu passes sur ma machine, l'écran du dessus mais est plus intéressant.
Attends, mais je peux passer sur ta machine.
Très bien,
si
fais ça là-dessus. Donc voilà, ouais, à peu près la même chose, sauf que moi c'est la version desktop. Donc ici vous avez une petite capture d'écran du moment où on va lancer un test. Et si vous regardez bien ici, vous pouvez lancer ces tests en utilisant Visual Studio Team Foundation Service. Traduction, vous allez pouvoir lancer vos tests de charge divers et variés directement sur des runners qui tournent dans Azure. Donc c'est pas à vous de gérer toute la plateforme qui va avec. C'est en preview, donc il y a une capacité limitée par Visual Studio qui s'y connecte, mais vous pouvez contacter, alors pas le support, mais Brian Harry, en disant j'ai besoin de plus, et il a promis qu'il regarderait.
Ah, c'est bien. Donc on est tranquille.
L'avenir le dira, mais en tout cas, c'est un truc dont on a absolument besoin aujourd'hui de faire ce genre de choses. C'est trop compliqué à mettre en place en entreprise. Ça coûte la peau des fesses s'il faut avoir ses propres fermes de serveurs pour les tests. Donc, autant reposer sur des serveurs qu'on utilise 2 minutes par jour. Quoi.
Exactement. Ou plus, quand même. deux, trois, quoi. On a essayé de faire court sur les nouvelles parce qu'en fait on va couvrir les choses partiellement puisqu'il y a quand même beaucoup de nouvelles sous forme de démos et de chat un peu interactif, de discussion interactive. Donc premier point, MSDN et Trial. Je te redonne l'écran.
Oui, alors si vous allez fouiner sur le blog de Scott Guthrie dont on parlait, Je voudrais vous expliquer comment ça marche à partir de maintenant, les avantages MSDN, parce que ça a beaucoup changé. Donc c'est vrai pour les avantages MSDN, c'est vrai pour l'offre de trial, et c'est vrai également pour les abonnements Bispark, donc pour toutes les startups. Avant, vous aviez une enveloppe de consommation sous la forme de quota. Vous n'aviez pas le droit de dépasser tant de gigas sur les storage, tant de gigas de base de données, tant d'heures de VM, etc., etc. Ce qui fait que le scénario ultra classique, les gens lançaient le premier du mois leurs deux machines virtuelles de test, ils grattaient leur quota de stockage disque en 27 jours et juste avant la démo de fin du mois, le truc s'arrêtait.
On disait que c'était mal.
Voilà, donc on a changé ça.
Tout c'était agaçant.
Voilà, donc on a changé ça et maintenant on a. Alors les prix sont en dollars parce que le blog post est en anglais, mais naturellement c'est traduit en euros.
Le blog post est en dollars. Voilà.
Et donc maintenant la nouvelle technique c'est on vous donne un budget et à vous de vous débrouiller pour l'allocation de ce budget. Si vous voulez utiliser vos 150 dollars mensuels en faisant que de la base de données, vous pouvez. Si vous voulez faire que du stockage, vous pouvez. Si vous voulez faire, et ici vous voyez par exemple un petit cas de test, là ma deuxième copie d'écran, si vous voulez allumer 80 machines virtuelles pendant 20 heures pour faire un gros test de charge, ça rentre là-dedans. Donc ça c'est la partie MSDN, et la structure est toujours la même, vous avez 200 dollars sur le premier mois, ce qui est l'équivalent de l'offre d'essai, qui fait également 200 dollars sur un mois, et ensuite pour l'offre d'essai, elle s'arrête là. Et vous êtes capé, vous ne pouvez pas dépenser un centime de plus. Et pour MSDN, ça dure un an. Et donc ensuite, les mois suivants, vous êtes à 50, 100 ou 150 dollars selon la nature de l'abonnement MSDN. Donc ça, ça va vous permettre de prendre énormément de scénarios et de les explorer. Donc vous voulez jouer avec Hadoop HD Insight, vous pouvez. Vous voulez jouer avec nos nouvelles machines virtuelles, vous pouvez. Vous voulez jouer avec telle ou telle nouvelle fonctionnalité. Tout ça est directement
c'est
intégré.
Pas, la première ressource qui s'arrête bloque tout le monde, c'est globalement, quand vous avez fini de dépenser votre budget,
voilà.
Ça s'arrête.
Et donc du coup, vous avez un nouveau portail de suivi de vos consommations. Voilà ici une copie d'écran qui vous montre à quoi ça ressemble et on vous montre ce qui vous reste. Donc vous avez une petite courbe qui vous montre dans le temps ce que vous avez consommé sur votre budget et qui vous alerte et qui vous dit voilà combien de jours il vous reste, voilà ce que vous avez déjà consommé, etc. etc. Ça n'est pas ce que vous avez aujourd'hui si vous avez un abonnement MSDN. Donc si moi je prends mon abonnement MSDN ici, on me prévient que je basculerai dans ce mode-là à partir du 1er août si je ne fais rien, mais je peux l'activer avant. Si vous créez une nouvelle offre d'essai ou vous activez une nouvelle offre MSDN, vous serez directement dans le nouveau modèle. Ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose importante, c'est que la limite de dépense existe toujours. Vous ne pouvez pas être facturé d'un centime sur ces offres. Ça, c'est quelque chose à garder.
On ne dit pas explicitement qu'on veut...
Voilà, et quand on dit explicite, c'est vraiment explicite, il y a un gros pop-up qui apparaît, et on vous dit, est-ce que vous voulez, etc., etc., et on ouais. vous explique bien ça, donc vous ne le ferez pas par hasard, quoi. Donc voilà un petit peu ces différentes choses. Le dernier détail, donc c'est de l'offre MSDN, donc c'est destiné aux tests et au développement, c'est explicite. Il y a deux cas dans lesquels ça peut servir à faire de la production. Le premier, c'est Bispark. Puisque normal, Bispark c'est un avantage pour les startups qui n'est pas un avantage ouais. test et dev. Le deuxième, vous pourriez faire sur le trial de la production si ça vous amusait, on ne vous l'interdit pas, mais ça ne dure qu'un mois. Après, on bascule en mode payant.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le trial, effectivement, on est capé, et on n'est jamais facturé dessus, mais si on veut transformer ça en un abonnement où on paye en fonction de la ressource, c'est faisable aussi, et on ne change pas d'abonnement pour ça. Il suffit de dire j'accepte de payer, et puis voilà.
Oui, c'est cette fenêtre-là qui permet de migrer directement. Donc voilà, pas de difficulté particulière, beaucoup plus de souplesse au quotidien pour tester plein de scénarios, et puis des petits graphes de suivi qui vous montrent très vite où vous en êtes. Donc, voilà, c'est les grandes nouveautés sur le trial. On est ravis parce que c'était une vraie galère d'avoir des gens qui venaient nous dire est-ce qu'on pourrait pas avoir 20 heures de plus parce qu'il faut qu'on fasse notre démo à la fin du mois et on a cramé notre quota de ceci. La réponse, c'est il est facile d'avoir ce quota. Et non, vous ne dépendez pas d'un quota spécifique pour telle ou telle ressource.
Et souvent, on avait aussi des gens qui disaient mais je ne comprends pas parce qu'il me reste des heures et pourtant ça s'est arrêté quoi. Alors qu'en fait, c'était le stockage qui était arrêté ou la bande passante sortante, des choses comme ça.
Voilà. Donc, voilà. Une autre petite chose intéressante là-dessus, sur le coût en lui-même.
Ah oui.
Donc deux petites choses intéressantes. La première, c'est si vous êtes dans la partie MSDN, dans ce cas-là, les prix que vous payez sont des prix réduits puisque c'est test ou dev. Et donc vous voyez derrière moi, là, enfin, sur l'écran, les prix pour MSDN, donc qui sont tous uniformes, ils dépendent juste de la taille de la machine virtuelle, il n'y a pas les prix des licences intégrées puisqu'ils sont couverts par votre abonnement MSDN. Donc ça, c'est la première nouvelle intéressante. La deuxième nouvelle intéressante, c'est que tous ces prix, vous les voyez à l'heure. C'est ce qui est marqué là. Et c'est comme ça qu'Azure fonctionnait jusqu'à il y a très peu de temps. En réalité, ils sont décomptés à la minute. Donc si jamais vous déployez votre machine virtuelle pendant 15 minutes, vous payez pour ces 15 minutes et pas pour une heure pleine. Voilà. Et ça, c'est pas valable que pour MSDN. Hein. Tout Azure bascule sur ce mode de paiement à la minute, de façon à ce que vous puissiez effectivement tirer le maximum de vos ressources là-dessus. Donc c'est à peu près tout sur cette partie pricing. Après, il y a des nouveautés spécifiques, fonctionnalité par fonctionnalité. Donc par exemple, sur machine virtuelle, je crois que tu as quelque chose d'intéressant là-dessus.
Donc en fait, on a sur les machines virtuelles, ici j'ai un déploiement d'une infrastructure SharePoint sur laquelle tout n'est pas démarré, puisqu'on voit que j'ai un point d'exclamation. Et ce point d'exclamation, il vient du fait que j'ai deux instances, juste les frontaux SharePoint en fait, qui sont arrêtés. Donc, sur un déploiement SharePoint, évidemment, c'est embêtant. Mais c'est pas tellement ça ce que je veux montrer, c'est le fait que j'ai deux types d'arrêts maintenant. J'ai un arrêt stopped et un arrêt stopped deallocated. Donc, quelle est la différence entre les deux? Alors, d'un point de vue, si je vais sur mes instances de machine virtuelle, ici, je vais sur celui qui est arrêté. Alors, hop, pardon, je vais retourner sur les machines virtuelles. Donc, sur celui qui est arrêté sans deallocated, donc stopped, si je vais sur le dashboard, je vois qu'en fait, j'ai encore son adresse IP publique et son adresse IP interne, puisqu'il est dans un réseau virtuel, qui sont toujours alloués, bien que la VM soit arrêtée. Et donc, dans ce cas-là, je continue à payer, comme ça a toujours été le cas, sur ma VM. En revanche, si j'arrête ma VM, mais que pour autant, donc ça c'est le cas de l'autre front-end, mais que pour autant je ne veux pas avoir à remettre en place les disques, etc., je peux faire un stop de deallocated. Et dans ce cas-là, je n'ai plus l'adresse IP qui est interne ni l'adresse IP publique qui sont allouées. J'ai plus de ressources qui sont allouées et du coup, j'arrête de payer pour cette VM et je garde quand même la configuration, à savoir que si je redémarre la VM, elle aura toujours ces deux disques OS et disques de données attachés. Je n'ai pas besoin de scripter les choses pour pouvoir la redémarrer de cette façon-là.
Alors, je vais juste résumer cette explication qui est très spécifique et très précise. Quand vous arrêtez une machine virtuelle dans le portail, par défaut, vous ne payez plus quand elle est arrêtée. Vous ne payez plus que son stockage. Parce que dans le portail, il désalloue par défaut lorsque vous demandez l'arrêt d'une machine. Voilà. Donc c'est juste ça. Si vous arrêtez une machine, vous ne paierez plus les heures où elle est éteinte à partir d'aujourd'hui.
Voilà. Et donc là, la façon de choisir si on veut continuer à payer ou pas, c'est moins stay provision. Ça veut dire je garde les adresses IP et des différentes ressources en fait qui sont provisionnées et donc je continue à payer et si je le mets pas j'arrête ma VM complètement. Donc là aujourd'hui c'est dans cette option là elle existe dans Windows Azure PowerShell et on suppose qu'elle arrivera assez vite dans le portail également.
Oui.
Donc voilà. Très bien. Donc si on prend la suite, nous avons le réseau maintenant.
Le Virtual Network.
Le Virtual Network. Donc, je te passe la main pour démarrer, Thomas, et puis on continue après.
Ça marche.
Très bien. Alors, hop. Voilà la main sur l'écran.
Et voilà la main. Donc, un petit tour d'horizon des Virtual Network et de ce qui a changé. Donc, ici, là, le portail, donc, qui a pas mal évolué avec la sortie du IaaS, hein, et la JA, qui est notamment sur la partie Virtual Network, où il y a eu quelques mises à jour. Donc, on vous remontre l'assistant de création du Virtual Network pour voir un petit peu les nouveautés. Donc, créer un Virtual Network, le mettre dans un Affinity Group, donc qui revient à sélectionner le data center dans lequel le Virtual Network sera créé. Et on voit ici donc les deux options dont on dispose désormais, donc la point-to-site connectivity pour définir une liste de clients qui pourront se connecter directement à mon réseau Azure, ou bien la site-to-site connectivity qui est, on va dire, le VPN classique qui va permettre de relier un site tout entier à mon réseau Azure. Ce qui est intéressant avec la partie site-to-site, c'est que si je crée ce virtual network, je rajoute ma subway, le subnet pour la gateway.
Oui, le subway, c'est autre chose.
Le subway, c'est autre chose. Voilà, mais le subnet plus une gateway, ça fait un subway. dans quelques secondes, j'aurai la possibilité de créer, de rajouter la gateway dans ce virtual network. Ouais. Et donc, on va voir qu'on a deux types, finalement, de gateway disponibles désormais. C'est un peu, on va dire, l'ancienne et la nouvelle. Vous voyez ici, on me dit la gateway n'a pas été créée ici. Hein, donc, il faut la créer, évidemment, pour pouvoir démarrer le VPN. Et donc, j'ai deux choix, static routing et dynamic routing. Donc, quelque part, le static routing correspond au VPN tel qu'il est sorti au tout départ, d'accord, avec un certain nombre de devices qui étaient supportés et qui permet de faire uniquement du site-to-site connectivity. Et le dynamic routing correspond à nos nouvelles gateways qui font site-to-site ou bien point-to-site. D'accord. Donc, ça correspond à une config côté de votre côté, enfin du côté de la device locale à demeure. Et on a ici sur le portail MSDN quelque chose d'assez détaillé qui explique la différence entre le static routing et le dynamic routing et les différents prérequis sur la gateway de votre côté. Donc, en fait, on a toute une config qui est différente pour la dynamic routing. Alors, aujourd'hui, si vous démarrez sur un nouveau virtual network, le conseil, c'est plutôt de partir sur dynamic routing, qui est donc le nouveau style, et qui vous permettra de faire du point-to-site également par la suite. Par contre, il y a un certain nombre de protocoles requis, comme IKEV2, etc., qui ne sont pas supportés par toutes les devices. Et donc, un petit peu plus bas, on a la liste des devices compatibles, et ce coup-ci, elle est maintenant divisée en deux. Hein, donc, on a à gauche les static routing, c'est celle qu'on supportait déjà, donc on retrouve les Cisco ASA, et ça c'est la principale différence. Les Cisco ASA qui sont donc des routeurs, on va dire, PME,
achetables par un particulier.
Voilà, qui sont abordables, ne supportent pas le dynamic routing. Par contre, les modèles plus élevés qui supportent des iOS plus récents le font. On a aussi des nouvelles, un certain nombre de nouvelles devices qui sont supportés depuis hier, c'était nos Soteket, donc WatchGuard, F5 et Citrix, qui, idem, à ce stade, ne supportent pas la version dynamique.
Et le dernier est très important.
Et ce qui est très intéressant, voilà, c'est qu'avec RRAS, donc avec Routing and Remote Access Services sur Windows Server 2012, eh ben, vous pouvez faire la version dynamique routing et donc faire du site-to-site, du point-to-site, tout ça à partir d'un simple serveur Windows Server 2012.
Donc, je le redis, vous avez un Windows Server 2012 qui est visible quelque part. Vous pouvez l'utiliser comme point VPN avec Azure.
On active le rôle RRAS.
Voilà.
Et en plus,
pas de device particulier, pas de hardware particulier.
Pas de hardware, voilà. Et en plus, on pourra faire donc les deux modes de VPN que l'on offre aujourd'hui.
Exactement. Donc, très bien. Donc,
voilà. C'était pour ma part.
Alors, la façon dont ça se configure après, une fois qu'on a... Alors là, moi, j'ai du dynamic routing, par exemple, avec Windows Server 2012 d'un côté, pour du site-to-site, dans mon data center de chez moi. et puis du client-to-site, enfin du point-to-site, pour me connecter au réseau depuis ma machine. Donc là, je suis déjà connecté à ce VPN. Donc, comment est-ce que ça se présente? Eh bien, ici, en fait, on voit ici que je suis connecté à ce VPN. Donc, c'est du SSTP. Hein, je suis connecté là depuis le réseau Corp. Et je peux accéder à mes VM. Donc, par exemple, ici, je suis connecté à un certain nombre de VM, comme cette VM qui est ici. Et je suis connecté sur quelle façon? Eh bien, sur le port 3389 pour cette VM-là. Et celle d'à côté, elle est aussi sur le port 3389. Je n'ai pas de endpoint public exposé sur ces ports 3389, en fait, puisque c'est par le VPN que je peux accéder à ces différentes machines virtuelles. Si je fais un IP config, par exemple, on voit que là, je suis dans ce même réseau 10.1.2.3, là, avec l'adresse 100.1. Et donc, je peux aller pinger les différentes machines. Donc, comment est-ce que ça se présente au niveau du portail? Donc, on voit que, à demeure, la machine n'est pas démarrée.
Oui, quelqu'un a oublié d'appuyer sur le bouton.
Ah, j'avais oublié d'allumer la machine chez moi. Et en revanche, le PC sur lequel je suis en train de travailler est bien connecté. C'est le client.
C'est lui-même.
C'est le One Client qui est connecté, c'est celui-ci. Donc j'ai bien ici cette gateway qui est connectée avec les différentes machines qui font partie de mon réseau virtuel, mm-hmm. Qui sont ici. Donc voilà au niveau réseau virtuel ce qu'on peut dire.
Ouais. Donc un scénario qui est bien pratique parce qu'on peut à la fois en gros avoir le VPN site to site, ça sert à connecter mes postes de travail par exemple, oui. de mes utilisateurs qui se connectent à une appli métier qui héberge dans Azure et ça oui. tout ça dans le VPN. De façon complètement sécurisée. Mmh. Et moi, sur mon poste, je peux me balader en tant qu'administrateur avec le client point to site et où que je sois, en vadrouille, de chez moi, à l'hôtel, me connecter à ce même réseau sécurisé dans Azure et administrer les machines, faire des remote desktop directement, etc.
Ouais, ou dans des scénarios où on ne sait pas trop sur quel port on va aller se connecter, etc. Voilà. Genre, je me connecte à tout un cluster Hadoop au hasard.
Voilà, on a une
effectivement,
ports,
pour pouvoir aller naviguer depuis le poste client. Mmh. Autre point dans le réseau, c'est le fait que les endpoints puissent avoir des ACL. Donc, par exemple, ici, j'ai monté un endpoint sur la machine 1.1.2.3 SQL1. Alors zut, c'est pas ça ce que je voulais faire.
Donc ACL, hein, juste oui. pour les gens qui sont habitués à d'autres éléments, c'est pouvoir firewaller les endpoints publics qui sont présents dans Azure.
Voilà, donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai une machine virtuelle qui est dans un autre data center Azure, qui est en East-US, alors que le réseau que je vous ai montré est en North Europe. Et il a comme adresse IP publique 168.61.36.252. Et donc j'ai dit, voilà, j'ouvre un endpoint sur le port 1433 pour N123 SQL1 et je veux que ce soit accessible sur cette adresse IP et seulement celle-là. Je fixe les 32 premiers bits, donc sur une adresse IP, en gros, il n'en reste plus beaucoup. Donc il n'y a que cette adresse IP qui peut accéder à ce endpoint 1433. Et donc, évidemment, si je suis depuis ma machine locale, je ne vais pas pouvoir aller accéder. Alors, hop. Je ne vais pas pouvoir aller accéder. Hop là, si je fais un telnet. Non, je vais me connecter avec un test.udl, par exemple. J'ai ça là. Ici. Pardon. Non, ici, Windows Azure Script, SharePoint on Azure. Voilà, j'ai un test.udl en fait qui essaye de se connecter à SharePoint on Azure.cloudapp.net sur le port 1433 avec le bon mot de passe. Et je demande à me connecter. Donc là, ça va prendre un certain temps parce que, évidemment, ça ne va pas marcher.
Ça fait un timeout puisque c'est filtré.
Voilà. Et en revanche, si je vais sur la VM qui est la bonne adresse IP, que je prends le même test.udl et que je prends également le même mot de passe correct, je fais test connection. Et donc là, je vais pouvoir me connecter via ce même endpoint, mais ici avec la bonne adresse IP. Donc effectivement, je vais avoir cette différence-là.
Donc le scénario, c'est typiquement ça. J'ai une VM ou un ensemble de VM sur lequel tourne un service, une base de données, un web service que j'expose en mode je peux utiliser le load balancing d'Azure, ouais. puisque j'ai un endpoint public. Par contre, je le restreins. Et donc, imaginons que j'ai mes VM frontales. Bah, seules mes VM frontales pourront accéder à ce service.
Ou ici, par exemple, la réplication entre différents data centers où on a besoin d'avoir plusieurs SQL qui se connectent. Effectivement, là, en revanche, quelqu'un sur Internet ne pourra pas accéder directement à ce endpoint, ce qui est heureux. Donc, ensuite, on avait la partie Remote PowerShell. Donc, maintenant, on a le Remote PowerShell qui est ouvert, en fait, et qui permet d'aller scripter à l'intérieur de la VM en plus du script à l'extérieur de la VM. Donc, si on prend un script comme celui-ci, par exemple, on va pouvoir... Alors, je vais fermer ça, voilà.
Tu exécutes depuis une machine tierce
oui.
du PowerShell sur la machine
Donc
cible.
Là, depuis ma machine locale, par exemple. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai juste le réseau qui est configuré, mais aucune VM. Je pars à partir des images standards, je crée une nouvelle VM, et dans cette VM, ce que ça va me permettre de faire, c'est d'attendre que la VM ait démarré. Donc déjà, il y a un Wait for Reboot qui est ici, qui est disponible. Et puis, une fois que ma VM est démarrée, en fait, je vais aller me connecter en Remote PowerShell et exécuter un morceau de script. Donc, tout ce script-là qui est là s'exécute sur la VM que je viens de provisionner. Donc, comme je lui avais ajouté un data disque, par exemple, je vais formater le disque F. qu'on a ici. Et puis, je vais rajouter la fonctionnalité Active Directory. Je vais pouvoir configurer la forêt. Donc, je crée une forêt. Ensuite, je peux rajouter des VM, etc. Et donc, je peux très bien faire une configuration complète avec une nouvelle forêt, des machines dans cette forêt et avoir directement ça. Les équipes de Azure et SharePoint sont allées plus loin et ont créé carrément tout un, donc là vous trouverez un blog post sur Windows Azure, avec carrément tout un ensemble de scripts PowerShell pour provisionner des configurations SharePoint complètes sur des fermes dans Windows Azure. Donc on peut avoir par exemple ce genre de configuration là, assez complète, où on va avoir plusieurs machines qui vont être configurées de façon complètement automatisée grâce à cette fonctionnalité de Remote PowerShell. On arrive à Websites, donc ouais. Je te passe la main, Pierre.
Bah oui, donc vous commencez à bien connaître Websites, je voudrais juste vous montrer des petites nouveautés. Donc d'abord, on n'a pas fait beaucoup de bruit autour, mais on a sorti la version 3 de WebMetrics. Cette version 3 de WebMetrics, elle a plein de petites choses intéressantes. Je vais en lancer un nouvel exemplaire pour vous montrer ça. Et par exemple, elle est nativement intégrée à Azure de A jusqu'à Z. Donc si vous demandez à créer ici une nouvelle application, donc que ce soit depuis la galerie, un template PHP, un CMS, etc. Je vais prendre juste ici un site vide que je vais appeler mon truc du bulletin Azure 15, voilà, 15BA, très très bien. Ouais. On pose une question, est-ce que vous pouvez le déployer directement dans Windows Azure au lieu de faire des choses diverses et variées. Donc je dis oui, je vais le mettre en Europe ici. Et puis, en gros, je vais me retrouver avec deux choses. Mon environnement de développement local sur lequel je peux tester, etc., qui est là. Et puis, avec un contrôle source qui me permet de travailler également, être à peu près propre localement.
Grosse nouveauté dans WebMetrics.
Oui, deux contrôles source. Hein, on est capable de travailler avec du TFS et avec Git. Et puis ici, côté remote, je vais me retrouver avec la possibilité d'aller publier directement mes applications. Et en fait, se publish ici. Vous voyez ce qui est en train de se faire. C'est la première fois que je le fais sur cet exemple, puisque je viens juste de le prendre. Il vérifie que Azure est compatible WebMetrics. Alors comme WebMetrics a été rendu compatible Azure, ça se passe plutôt bien. Et ensuite, il fait sa publication comme il le ferait sur n'importe quel système. Et voilà qui est fait. Et maintenant, j'ai le lien direct nativement intégré là-dessus avec tout, donc avec toute la gestion ici remote, plein de petits helpers que vous voyez ici, donc vous pouvez accéder aux pages de monitoring, aux pages de gestion d'Azure, au store pour les différents éléments supplémentaires, au système de gestion de scalabilité, gestion de domaine, tous ces éléments sont intégrés. Sur la partie gestion de domaine, donc oublions un tout petit peu WebMetrics, il est toujours visible et accessible ici directement depuis le portail. Et si je vais prendre ici ma démo et que je vais regarder un petit peu la configuration, il y a un autre élément très important qui vient d'apparaître, qu'on n'arrêtait pas de nous réclamer, et qui est situé ici. Et là, certificat est actif, alors parce que je ne suis pas dans le mode gratuit, hein, il y a des petites contraintes là-dessus, et quand je veux télécharger un certificat ici, eh ben je peux envoyer directement mon certificat associé à mon nom de domaine, et donc me retrouver avec du SSL à mon nom directement sur mon site.
On en avait déjà ça. Au sens upload du terme.
Oui, j'envoie sur Azure.
Chargé vers le,
voilà.
Vers le site.
Et on a toujours la gestion des domaines classiques, hein, sans SSL, qui existe depuis déjà quelques mois. Il y a plein d'autres petites choses qui sont en train d'apparaître autour de websites, mais je trouvais que ces deux éléments, l'outillage pour les développeurs côté Windows, l'intégration Git qui existait côté serveur, qui est maintenant côté client également, et puis cette gestion des domaines custom à la fois en normal et en SSL, méritait de l'expliquer rapidement. Voilà. Et il y a toujours un DSign gratuit dans les abonnements, etc.
Ouais. Enfin, après. J'aime bien le nom de ton site.
C'est la démo du bulletin Azure.
C'est pas mal.
Bulaz.
Voilà. Bulaz, c'est pas mal. Très bien. Donc on arrive à la slide suivante. À bientôt.
À bientôt.
Puisque effectivement cet épisode se termine et également l'année scolaire.
C'est bientôt l'été, globalement. Bientôt les vacances.
Donc voilà. Là en fait nous on va être actifs sur le 1er juillet.
Oui.
Donc on se retrouve le 1er juillet sous ce, en direct. Voilà, ouais, virtuellement, mais en direct.
Exactement.
Et puis, bah après,
à la rentrée,
on verra à la rentrée.
Plus d'aventures.
Exactement.
Et on vous fera des devoirs de vacances aussi. On est en train de plancher sur des petits goodies, des choses à gagner, des petits quiz, etc. pour que vous passiez pas l'été complètement idiot, abruti sur une plage. Hein. On vous fera bosser.
Abruti sur une plage, mais avec un laptop.
Voilà.
Donc très bien. Eh bien, à bientôt et merci.
À bientôt. À bientôt.